Vous écoutez IDFM, il est 14h.
C'est l'heure de l'agenda des villes. IDFM Radio en lien avec tout d'abord la nuit de la lecture. Je vous rappelle que cet événement aura lieu le samedi 19 janvier dans les bibliothèques et les librairies. Troisième édition pour cet événement totalement gratuit. Rendez-vous notamment à Enghien-les-Bains, à la librairie jeunesse Croco-Livre pour découvrir la nuit de la lecture de 19h à 20h avec une soirée pyjama. Et du côté de la commune de Deuil-la-Barre aussi demain à la bibliothèque de 15h à 17h. Rendez-vous pour un atelier Dessine-moi un doudou. Si vous voulez en savoir davantage sur la nuit de la lecture, rendez-vous sur le site internet nuitdelalecture.fr. L'agenda des villes avec aussi différents événements sur la commune d'Enghien-les-Bains. Et tout d'abord, Michel Delpech, un tribute sera rendu au célèbre chanteur à l'école de musique et de danse organisée par Michel Pellet, principal compositeur du chanteur Michel Delpech. Une soirée en hommage ce vendredi 18 janvier à 20h à l'école de musique et de danse à Enghien-les-Bains. Restons toujours à Enghien-les-Bains avec cette fois-ci du jazz, de vent de Debussy à Gershwin. Dimanche 20 janvier à 17h, rendez-vous au Temple protestant pour découvrir le quintet à vent Anna Cruz. Renseignements et réservations sur le site de la ville d'Enghien-les-Bains ou sinon directement sur place. Participation aux frais libres et responsable. L'agenda des villes avec aussi samedi, donc demain, sur la commune de Viarmes, un feu d'artifice est tiré au profit d'Hugo et Emma à 18h30 au parc de toute ville. Je vous rappelle que les deux enfants âgés de 3 et 1 an sont atteints d'une maladie génétique rare qui les condamne à un décès prématuré. Cet événement a pour but de collecter des fonds pour financer un essai clinique. Entrée 2 euros. C'était l'agenda des villes sur IDFM Radio Enghien.
Audrey Lamolly et je suis ravie de vous retrouver sur IDFM Radio Enghien dans l'émission La Parole aux Associations, une émission dédiée aux associations du Val d'Oise et à ceux qui les font vivre. Je profite d'avoir le micro pour vous souhaiter à tous et à toutes une très belle année 2019, que vos projets prennent la forme que vous espérez. Cette semaine, nous recevons l'association L'Imagerie, une galerie d'art argenteuillaise, indépendante, programmant des expositions de qualité tout au long de l'année. Elle développe des actions culturelles et éducatives à destination des habitants, des enseignants, mais aussi des centres sociaux, des associations et des entreprises. Fidèle à sa volonté de démocratisation de l'art, l'association joue aussi un rôle d'espace citoyen fondé sur le désir de soutenir la création actuelle. Intégrée dans un périmètre de quartier prioritaire, ces actions ont l'ambition d'encourager la participation des habitants et la mise en valeur des talents. Mais l'association L'Imagerie, c'est d'abord l'initiative de deux artistes pluridisciplinaires, Valérie Polis et Lancy Siessi, et une envie commune de sensibiliser et de présenter les arts actuels au public. Pour nous parler de cette association, j'accueille cet après-midi une partie du binôme, Valérie Polis, présidente de l'association. Bienvenue Valérie.
Bonjour Audrey.
Au sommaire de cette émission, je vous propose d'abord d'en savoir un peu plus sur notre invité dans la rubrique Portrait d'engagé. Puis Valérie nous présentera comment fonctionne l'association et ce qu'il s'y passe concrètement. Et en dernière partie d'émission, nous reviendrons sur l'actualité de l'imagerie, notamment l'exposition du graphiste, calligraphe et dessinateur Julien Priez. Alors tout d'abord Valérie, je vous propose de faire votre portrait d'engagé pour mieux faire votre connaissance, si bien sûr vous en êtes d'accord. Ça vous va ?
Oui, ça me va.
Alors Valérie, est-ce que vous pourriez, pour commencer, nous présenter un petit peu votre parcours ?
Alors, mon parcours. Donc en fait, je suis pas du tout issue de la région parisienne. J'ai grandi en Normandie, dans un petit village de 50 habitants situé entre Granville et le Mont-Saint-Michel. Donc j'ai passé mon enfance dans une ferme familiale. entourée de grandes étendues de verdure, de beaucoup d'animaux et de mes parents et de mon petit frère. C'est un peu Heidi à la campagne. Donc, dès toute petite, j'ai été vraiment éprise par le dessin. Dès l'âge de tenir un crayon, c'est dans cet environnement que j'ai aiguisé un certain sens de la créativité. Donc en fait, j'ai une éducation très libre qui m'a permis de développer une certaine forme d'autonomie et un sens de la débrouillardise.
Et vos parents étaient aussi avaient des appétences pour l'art?
Alors, pas du tout. Je n'ai eu aucune influence dans mon entourage direct. Par contre, j'ai fait preuve de beaucoup de propagande auprès de mon petit frère, qui aujourd'hui travaille aussi dans le milieu artistique en tant que régisseur d'art dans des très grands musées à Bruxelles. Donc, je suis très fière de lui et de moi.
Félicitations alors. Donc depuis toute petite, vous tenez des crayons, vous dessinez, vous inventez, vous créez.
Voilà, tout à fait. À l'école, je développe. Enfin, je dirige des équipes d'ateliers d'art plastique déjà à l'école primaire, où je mets en place des ateliers de fresques murales. On reproduisait des œuvres de grands artistes comme Vasarely. Au collège, je passe un concours. J'obtiens le premier prix de bande dessinée de Basse-Normandie. Et donc je continue toujours dans cette lignée avec cette persuasion que je vais faire une profession dans le milieu de la création. Donc j'intègre un lycée littéraire qui propose une option art plastique et là
toujours en Basse-Normandie.
Toujours en Basse-Normandie. Et là c'est le déclic. J'ai une professeure qui nous propose des cours d'histoire de l'art et je m'intéresse tout particulièrement à l'art contemporain. En parallèle, pendant les vacances scolaires, je travaille en tant qu'animatrice dans un gîte d'enfants à la ferme. Donc voilà, je reste dans mon milieu d'origine. Mais là, pour la première fois, je suis confrontée à un public parisien. Donc il regroupe des enfants issus de catégories sociales très différentes, à savoir des enfants qui viennent, dont certains viennent de familles très aisées et d'autres de foyers et de familles d'accueil. Donc là, je suis vraiment frappée par toute cette mixité sociale. À 18 ans, je quitte ma Normandie. Et là, donc j'ai plutôt un bon dossier scolaire, même si j'avoue que j'ai fait pas mal de bêtises aussi. Hein. J'étais loin d'être parfaite. Avec un bon dossier scolaire, j'arrive à décrocher quelques écoles d'art comme les Beaux-Arts de Cergy. Mais mon choix se porte sur l'école Estienne, qui est une école très renommée sur Paris qui forme au métier du livre. J'empoche un BTS en communication visuelle et je décide très vite de me diriger sur le marché du travail. Donc en fait, j'aime à dire que je suis un produit de l'éducation nationale.
Et donc, une fois que vous sortez de vos diplômes en poche, une fois que vous sortez de l'école, vous travaillez où ?
Alors, donc, aujourd'hui, je suis directrice artistique, plus précisément graphiste spécialisée dans l'édition. Donc, au sortir de l'école Estienne, je trouve immédiatement du travail. Je suis embauchée dans les éditions Lonely Planet qui conçoivent des guides de voyage. Aujourd'hui, presque 20 ans après, je travaille toujours avec eux, mais de manière indépendante.
Voilà, là, aujourd'hui, vous travaillez à votre compte, puisque vous avez et à la fois une entreprise et l'association L'Imagerie. D'ailleurs, les deux portent le même nom. On verra les vases communicants entre ces deux statuts différents. Voilà. Alors, vous nous avez dit que vous étiez directrice artistique, c'est-à-dire concrètement, qu'est-ce qu'on fait quand on est directrice artistique ?
Alors, donc j'ai fait mes armes aussi auprès de d'une personne qui s'appelle Arnaud Corbin, à qui je dois beaucoup, qui m'a enseigné beaucoup de choses autour de la réalisation de supports de communication dédiés à la culture et aux collectivités locales. Donc voilà, un graphiste, c'est quelqu'un qui fait des affiches, qui fait des programmes, qui conçoit des logos, qui donne envie de lire et de comprendre une information et de la manière la plus claire possible.
Donc j'imagine que pour être une bonne graphiste, il y a à acquérir la technique à l'école et puis et bah, tout ce qui est créativité, imagination, originalité, ça après c'est quelque chose qui s'entretient, qui...
Alors en fait on s'adapte à la demande, on s'adapte aux clients. J'ai aussi travaillé dans des agences de publicité. Ainsi que une agence d'événementiel dans le luxe et le cinéma. Donc là, voilà, c'est un autre état d'esprit, c'est d'autres manières de s'exprimer, un autre milieu et voilà.
Et alors, où est-ce que vous allez puiser votre inspiration ? Est-ce que vous avez des artistes de prédilection ? Qu'est-ce qui vous inspire dans votre travail ?
Alors, j'ai de nombreuses références qui seraient très, très difficiles à lister ici. Mais étant issue à la fois des arts plastiques et des arts appliqués, je peux pas vouer une préférence à un artiste. Mais pour le graphisme, j'ai été marquée par le travail de Grapus dans les années 68, avec un travail assez engagé. Pour ce qui est de l'art contemporain, j'ai beaucoup apprécié le travail de Thomas Hirschhorn, donc qui a proposé ce qu'il a appelé le musée précaire albiné. Donc c'était en 2001 à Aubervilliers, des œuvres importantes de l'histoire de l'art comme Duchamp, Fernand Léger, Malevitch, Mondrian ont été installés au pied d'une barre d'immeuble dans un musée créé de briques et de broc par les habitants. Et ça, c'est typiquement le genre d'initiative que j'apprécie.
Et alors, comment vous est venue l'idée et l'envie de créer cette association il y a 3 ans, L'Imagerie ?
Alors, je peux pas parler de L'Imagerie sans évoquer Lancy, mon ami, avec qui j'ai fondé une famille. Avec qui nous avons un enfant, donc qui est lui aussi passionné d'art comme moi, mais de manière différente. Lui va être plus attaché aux pratiques urbaines, au street art, alors que moi, je cherche plutôt quelque chose dans une culture conceptuelle alternative. Mais du coup, ça suscite en nous des discussions perpétuelles et une certaine ouverture d'esprit. Donc L'Imagerie, sans Lancy, ça pourrait pas exister. C'est vraiment...
C'est cette complémentarité-là qui fait la richesse de ce que vous proposez au sein de l'association.
Exactement. Alors avant L'Imagerie, j'avais déjà créé une première association qui existe encore, qui s'appelle la Trocambulante. Donc qu'est-ce que c'est que la Trocambulante ? Vous pouvez rechercher sur internet. C'est vrai qu'elle est un peu en sommeil parce que j'ai un peu moins le temps de m'en occuper. Mais c'est une forme de banque d'images un peu atypique. C'est un espace consacré à l'archive. la consultation et l'emprunt de photographies de famille. Donc en fait, concrètement, c'est un fonds de 10 000 photographies amateurs, c'est-à-dire des photos argentiques qui ont été glanées dans des brocantes et des vide-greniers. Ces photos ont été numérisées, classées par thème et donc mises à disposition d'éditeurs, de graphistes, de musées. Ça a donné lieu à des expositions intéressantes, par exemple au musée d'art contemporain de Strasbourg, au lieu unique à Nantes. Et par le biais de cette association, j'ai développé des compétences pointues en iconographie et je me suis spécialisée dans la photographie. Donc en fait, ma rencontre avec Lancy, qui avait déjà lui une pratique artistique déjà très développée, lui il est graphiste de formation comme moi, diplômé de l'école des Gobelins. Alors lui c'est un véritable touche-à-tout. Il est très bon en illustration. Il touche les nouvelles technologies, il fait du montage vidéo et c'est le photographe attitré de l'imagerie. Donc en fait, en 2013, on venait d'arriver à Argenteuil, on s'est donc installé avec notre fils depuis 2011. On a répondu à un appel à projet dans le cadre du Mai des artistes, qui à l'époque sélectionnait des dossiers pour mettre en place une sorte de résidence. Donc en fait, a donné lieu le projet Un air en commun, qui nous a permis pour la première fois de rentrer en contact avec les argenteuillers par le biais des maisons de quartier, mais aussi de rencontrer les élus, les acteurs locaux et de proposer une œuvre collective à travers les photographies de famille de 12 familles exactement qu'on avait sélectionnées.
Donc ça c'est votre premier contact associatif, votre première expérience associative aussi sur Argenteuil, votre première rencontre associative avec le public argenteuillais.
Tout à fait, ça a été vraiment révélateur de tout ce qui se passe aujourd'hui.
Et donc une fois que alors la Trocambulante c'était il y a à peu près 6 ans, 7 ans ?
Ouais, 2006.
Ouais. Hein. Et puis ensuite, vous avez développé et votre entreprise, c'est à ce moment-là, vous avez développé alors, l'entreprise et l'association en même temps ou c'est l'entreprise d'abord ?
Alors, effectivement, l'imagerie, l'imagerie, c'est un atelier de design graphique, c'est un studio photo et une galerie d'art. Donc c'est une entité qui regroupe deux micro-entreprises et une association. La galerie d'art représentant l'association dont je représente la présidence.
Et donc ça, on va en parler tout à l'heure. Mais juste, est-ce que Valérie, vous pourriez nous expliquer rapidement pourquoi vous avez eu envie de garder ce statut associatif à côté de votre travail, vous aviez déjà une association, la Trocambulante, vous avez cette entreprise, l'imagerie. Pourquoi avoir envie de conserver cet
alors,
engagement associatif ?
C'est vrai que ça peut sembler un peu schizophrénique, mais voilà, pour nous, c'était naturel de séparer nos différentes activités, à savoir plus commerciales auprès de l'entreprise et associatives d'intérêt général avec nos actions auprès des habitants à travers l'association. Ce sont deux comptabilités totalement distinctes et nous, ça nous permet de mieux nous retrouver.
Et puis deux philosophies aussi différentes, quoi.
Oui, enfin, tout se relie, en fait.
Vous avez une marque, et puis, par contre, voilà, avec votre activité associative qu'on va évoquer juste après la pause musicale, du coup, je crois qu'il y a une grande importance que vous attachez à la rencontre entre les artistes et le public argenteuillais notamment, et plus globalement faire rencontrer les arts au pluriel et les territoires urbains dans lesquels ils évoluent ou qu'on amène ou qu'on présente. Merci beaucoup Valérie d'avoir bien voulu nous en dire un peu plus sur vous. Je vous propose de poursuivre notre conversation et de découvrir plus concrètement ce que fait l'imagerie, juste après avoir écouté Emika, qui est une chanteuse, compositrice, allemande que vous vouliez, Valérie, nous faire découvrir. À tout de suite sur IDFM Radio Anguin. Vous êtes toujours sur IDFM Radio Anguin dans l'émission La Parole aux associations où nous recevons cet après-midi Valérie Polis, présidente de l'Imagerie. Alors Valérie, est-ce que vous pourriez tout d'abord nous présenter votre association ?
Oui, alors l'Imagerie, c'est une galerie d'art indépendante qui propose à deux artistes d'exposer par an. Donc on a la chance d'avoir un très beau local situé dans le centre-ville d'Argenteuil, dans le centre historique et patrimonial de la ville. Donc en fait, ce sont des artistes confirmés ou émergents qu'on accueille et donc on invite à montrer leur travail auprès des Argenteuillais.
Alors quels sont les critères pour exposer chez vous ? Il faut être professionnel ?
Alors effectivement, les artistes sont professionnels, ils vivent de leur art. Ils ont une certaine affluence, voilà, ils ont déjà fait quelques expositions. Souvent, ils sont issus de grandes écoles d'art. Voilà.
Et pourquoi vous avez fait ce choix-là d'être de cibler plutôt les artistes professionnels?
Ben parce que déjà c'est un plaisir d'aller à leur rencontre. Et puis c'est toujours dans une logique de transmission. On est assez exigeant. On aime les belles choses. On aime le travail bien fait pour nous-mêmes. Donc voilà.
Une envie de partager cette qualité de travail aussi avec le reste. Exactement. D'Argenteuil, il y a d'autres galeries d'art à Argenteuil ou pas?
Alors, je pense qu'on a été les précurseurs en la matière. La culture visuelle, en règle générale, est toujours un petit peu la dernière roue du carrosse. Aujourd'hui, depuis, on a l'atelier qui s'est installé juste à côté dans les jardins de l'abbaye qui... en fait, et le service patrimoine de la ville avec qui on aime bien collaborer.
Alors, vous parlez, dans les expositions, vous parlez souvent d'art actuel. Art actuel, c'est quoi?
Ben, en fait, art actuel...
C'est contemporain?
Ou c'est encore plus contemporain, c'est-à-dire que... Parce que les artistes contemporains sont parfois morts aujourd'hui. Art actuel, c'est l'art d'aujourd'hui qui nous entoure de notre temps actuel.
Alors, est-ce que c'est vous qui allez chercher des marchés, les artistes, ou est-ce que c'est eux qui viennent vous voir pour être exposés?
Alors, très franchement, c'est plutôt nous qui allons à leur rencontre et on considère que c'est un grand privilège qu'ils acceptent notre proposition.
Il y a plutôt une bonne réception des artistes? Oui, faut argumenter un peu, comment ça se passe?
Ben en fait, il faut essayer de jauger ce qui est accessible ou pas, et en général, on arrive à faire les bons choix.
Là, vous avez exposé, c'est un graffeur, Sino?
Alors effectivement, l'année dernière, on a exposé Sino, qui est un artiste très reconnu dans le monde du graffiti depuis les années 80. Cette exposition a suscité des centaines de visites, une certaine résonance au niveau départemental. Voilà.
Donc il a accepté tout de suite de venir. Parce que je crois que vos expositions, elles ont un supplément d'âme. C'est-à-dire que vous exposez, il y a un vernissage, et puis ensuite il y a des visites commentées, guidées, et puis peut-être des ateliers autour. Non,
alors exactement. Chaque exposition nécessite tout un process de travail. Donc d'abord, il faut se mettre d'accord avec les artistes. On établit un contrat. Parce que nous, on est aussi en charge de la promotion et de la vente de leurs œuvres au sein de la galerie.
D'accord, donc on peut acheter leurs œuvres.
Tout à fait, on peut acheter leurs œuvres. Ça fait partie des missions de l'association, de la diffusion de l'art. Donc, pour mener à bien toute cette petite entreprise, on met effectivement en place à chaque exposition un vernissage. Donc, ce sont des lieux, ce sont des moments forts où tout le monde est invité à se retrouver autour d'un buffet et à la fois les amis de l'imagerie, mais aussi les habitants, les acteurs locaux, les élus se retrouvent pour passer un agréable moment.
Donc ouvert à tous, on n'a pas besoin forcément d'être adhérent à l'imagerie pour
pouvoir... C'est ouvert à tous, à quiconque qui veut découvrir le travail de l'artiste exposé. Donc ensuite, on met en place des visites commentées. Donc on peut visiter les expositions du lundi au samedi, de 10h à 19h, gratuitement, en visite libre. N'importe qui peut ouvrir la porte... et venir à notre rencontre, même s'il a pas envie de parler, c'est pas grave, il faut pas oser, il faut ne pas hésiter à
venir rentrer. Jeter un œil.
Voilà, venir jeter un œil. Donc ces visites commentées, Elles sont toujours un petit peu constituées de la même manière. Elles se destinent donc aux groupes, à la fois les scolaires, les centres sociaux, les associations, voilà, différentes structures locales. Et donc, on prépare d'abord un diaporama sur la pratique artistique de l'artiste. C'est-à-dire que les visiteurs, on les fait pas rentrer tout de suite dans l'exposition. On les prépare déjà un petit peu en amont.
Vous posez le contexte, le décor dans lequel s'inscrit l'œuvre du plus général de l'artiste.
Alors c'est un petit peu de la vulgarisation artistique. Par exemple, dans le cadre de Sino, on va donner une définition du graffiti, la naissance du graffiti,
son histoire, son évolution.
Donc pour tous les domaines présentés, et donc ensuite on se rend dans l'exposition, et là de manière toujours assez ludique, on explique le travail, le message de l'artiste. On peut aussi finir par un atelier de pratique et de sensibilisation artistique, toujours autour du travail exposé.
Et qui anime ces visites ? C'est vous ?
Eh ben, c'est Lancy et moi. On est multicasquettes.
Et alors, tout à l'heure, je vous demandais, est-ce que vous allez démarcher les artistes ou est-ce qu'ils viennent vous voir ? Vous m'avez dit, c'est plutôt moi qui,
c'est plutôt nous.
Qui allons à leur rencontre. Comment vous choisissez ces artistes-là ? Déjà, vous allez où pour les identifier, pour trouver un travail un peu innovant, ces artistes émergents aussi. Vous allez les chercher comment et...
Comme je te dis, Audrey, c'est des artistes qui ont déjà une certaine reconnaissance, donc ils sont déjà visibles, ça fait déjà un moment qu'on les suit, ça peut être sur les réseaux sociaux, ils ont déjà une certaine rayonnance dans le milieu de l'art.
D'accord, donc après vous prenez contact avec eux et voyez
si
ça...
Voilà, s'ils sont d'accord pour faire l'aventure avec nous. Ça leur demande quand même une certaine implication. On avait pensé inviter des artistes étrangers, mais c'est pas possible parce qu'on les fait, on les fait intervenir assez souvent. Ils doivent aussi mener des ateliers auprès d'écoles. Et donc, ça demande de leur part quand même une certaine implication. Donc, c'est tout un tas de paramètres qui doivent quand même rentrer.
Se préparer et s'anticiper. Et alors, on a parlé de Sino, le graffeur. Vous avez accueilli qui d'autre comme artiste ?
Depuis notre ouverture en 2015, on compte 10 expositions, plus d'autres expositions off. Mais voilà, on en est à la 10e. Par exemple, on a commencé par Anthony Casero, qui lui réalisait des portraits hyper réalistes au stylo bille. On a eu aussi Adji, qui elle est déjà une artiste confirmée, qui réalise de la peinture allant de la sculpture en passant par le caractère design. On a eu deux illustratrices jeunesse, Julia Spears et Stéphie Broccoli. Donc là, on aborde l'illustration à travers l'édition. Donc ce sont deux jeunes artistes qui éditent pour des maisons prestigieuses comme Gallimard Jeunesse, Larousse, Mango. Et voilà, beaucoup de maisons d'édition.
Donc des terrains artistiques un peu différents.
Toujours dans les arts graphiques en fait. On tourne vraiment autour de ces pratiques-là.
Alors il y a les expositions que vous mettez en place dans l'année, qu'on peut venir voir librement ou en visite commentée. Je crois qu'il y a des temps de rencontre aussi, je crois, quand c'est possible, avec l'artiste en question. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir aller rencontrer celui qui est exposé, finalement.
Alors en fait, pour faire vivre ces expositions, on met en place tout un tas d'événements. Parce que je rappelle que le centre-ville d'Argenteuil est situé en ce qu'on appelle zone prioritaire. Donc ce sont des habitants qui n'ont pas nécessairement l'habitude d'aller dans des musées. Donc si on faisait pas tout ce travail de sensibilisation, ça ne fonctionnerait pas. Donc c'est un combat quotidien. Et donc, pour mener à bien toutes ces actions, on met en place différents partenariats. Donc, par exemple, dans les partenariats courants, on accueille les membres de l'université Interage, donc qui est un service municipal, qui viennent à la rencontre des artistes au sein de l'exposition. Donc là, c'est un public plutôt troisième âge,
qui senior, oui.
Voilà, senior, qui participe à des conférences et à des sorties tout au long de l'année. Donc on s'est inscrit dans leur programmation.
Alors quelle réception de Sino, du travail de Sino, lorsque les seniors de l'université Interage d'Argenteuil viennent à l'expo?
Eh ben franchement, c'est vraiment étonnant, que ce soit l'artiste ou les visiteurs, tout le monde est vraiment ravi de se rencontrer. Ça donne un peu des chocs de culture. Et voilà, c'est ça qui nous intéresse aussi.
Donc un travail avec la ville sur le public senior.
Oui, alors beaucoup avec le jeune public. On a une bourse qu'on a contractée auprès de l'Académie de Versailles qui nous permet de mettre en place des ateliers dans l'école élémentaire PVC1 du centre-ville.
Donc partenariat avec l'Éducation nationale.
Tout à fait.
D'accord, donc là vous allez dans l'établissement scolaire.
Alors il y a certaines classes qui viennent visiter l'exposition. Donc là, sans la présence de l'artiste. Et ensuite, l'artiste lui-même intervient dans l'école pour mettre en place un atelier. Donc, je précise quand même que nos artistes sont rémunérés pour toutes les interventions.
Vous l'avez dit, vous travaillez avec des artistes professionnels, donc qui vivent de leur art et donc... Qui, à voilà. Ce titre, doivent être rémunérés, bien sûr.
Tout à fait. Mmh. Les artistes ne vivent pas d'amour et d'eau fraîche, comme tout le monde. Ils ont besoin de payer leurs factures.
D'accord. Donc, des ateliers au sein des établissements scolaires. Est-ce que vous faites des ateliers au sein de l'imagerie? Est-ce qu'on peut venir
Alors, en parallèle de ces expositions, on met en place des ateliers de sensibilisation destinés au jeune public pendant les vacances scolaires. Donc là, c'est toujours avec une spécialisation art graphique. Donc, par exemple, je peux vous citer des idées de thématiques. On a eu graines de photographe, l'apprenti typographe, ou encore petite histoire de l'affiche, le petit graffeur. Enfin, voilà, on a appelé ce cycle d'ateliers sages comme des images.
Alors, très concrètement, c'est des ateliers de 2 heures qui ont lieu quand? Le samedi, mercredi?
Moi, je me souviens plus très bien. C'est pendant les vacances scolaires, donc ça peut se passer un peu n'importe quand. Ça dure 2 heures. Et
c'est à partir de quel âge?
C'est la tranche 8-12 ans, avec une certaine tolérance en fonction des motivations de chacun.
D'accord, donc là, c'est les habitants qui viennent inscrire leurs enfants sur ces ateliers. Les parents ne restent pas?
Oui, on prend en charge leurs enfants. Ça permet aux parents de souffler un petit peu.
Et alors, du coup, les enfants, eux, on parlait des seniors tout à l'heure, leur confrontation, leur rencontre avec l'art, comment ça se passe?
Eh ben, j'espère que ça leur plaît. Ils reviennent nous voir, donc je suppose que voilà.
Vous faites des choses, vous créez avec eux?
Oui, on met en place des ateliers sous différentes formes. Effectivement, les ateliers fournissent le matériel et on s'amuse ensemble tout en apprenant.
D'accord, ils repartent avec ce qu'ils ont créé. Il y a pas, je sais pas, une œuvre collective qui serait exposée, non, pas.
En fait, ça dépend. Là, c'est des petites sessions de 2 heures, mais on fait aussi des partenariats avec les maisons de quartier qui parfois font appel à nous toute une semaine dans le cadre d'un stage. Et là, on peut davantage approfondir les connaissances.
D'accord. Donc le partenariat, vous évoquiez justement la nécessité de démocratiser finalement l'art et les arts actuels et de le rendre accessible et donc forcément de communiquer, de le mettre à portée de main et de désacraliser un peu la galerie d'art et d'habituer aussi les habitants à ce lieu. Donc vous allez avec, vous avez un partenariat avec l'éducation nationale, avec la ville, peut-être avec les associations, certaines associations.
Oui, alors il y a Môme Argenteuil avec qui on travaille depuis leur installation. Ça a été un peu évident de collaborer avec eux. C'est en fait c'est un mode de garde artistique pour les enfants. Donc voilà, ça allait de soi qu'on travaille ensemble. On a aussi on fait aussi des collaborations avec des établissements d'art graphique comme le lycée Claude Garamond à Colombes et le lycée privé de communication graphique à Ony.
Et alors votre association, l'Imagerie pour gérer à la fois l'organisation d'expositions et des visites et des vernissages et des ateliers et la prospection de partenariats. Vous êtes combien dans l'association ? Combien de bénévoles ? Combien d'adhérents ?
Alors j'ai pas les chiffres exacts. On n'est pas dans la quantité. On est vraiment dans l'action. D'ailleurs, on manque énormément de temps, pour beaucoup de choses. On aurait vraiment besoin de soutien humain.
Donc là, vous lancez un appel au bénévolat pour vous donner un coup de main dans l'activité associative de l'imagerie.
Oui, en quelque sorte, quiconque est vraiment stimulé, intéressé, pourrait apporter du soutien à la fois pour l'accueil des publics, mais aussi la recherche de partenariats, la sollicitation de la presse, le montage des expositions... et voir nous aider aussi à constituer des dossiers de demande de subvention qu'on a bien du mal à effectuer par manque cruel de temps. En fait, l'entreprise prend vraiment le dessus de l'association parce qu'on est bénévole de l'association. Donc voilà, on a des contraintes qui nous retiennent. Mais pour nous, on lâchera jamais ce morceau. C'est pas possible autrement.
Je vous le souhaite aussi. Alors, Valérie, vous aviez... Alors, merci d'abord de nous avoir présenté toute l'activité de votre association. On rappellera comment vous contacter à la fin de l'émission. Vous vouliez, pour notre deuxième pause musicale, nous présenter une artiste qui s'appelle Jo the Wise. Pardon. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots?
Oui, alors en fait, lorsqu'on fait des vernissages, on invite aussi parfois des musiciens à se représenter. Ça a été le cas avec Johanna, qui est donc argenteuillaise également, et enfin comme toi, Audrey, qui chante et compose merveilleusement bien. Elle est très jeune. Mais voilà, je vous propose de l'écouter, de découvrir son travail.
Eh ben c'est parti, on écoute Jo the Wise sur IDFM Radio Anguin, tout de suite.
Trust me, and I cry like a man, and I fight like a woman. I make love like a man, and I fight like a woman. Feelings, anger, legenda. Trust me, trust me. Feelings, anger, legenda. Trust me, and I chill like a man, and I work like a woman. I care like a man, don't give a shit like a woman. Feelings, anger, agenda. Trust me, trust me. Feelings, anger, agenda. Yeah, trust me, trust me. And I cry like a man, and I fight like a woman. I make love like a man, and I fight.
Vous êtes toujours dans l'émission La Parole aux associations avec Valérie de l'Imagerie. Alors Valérie, en préparant cette émission, vous souhaitiez prendre un petit peu de temps pour nous présenter vos actualités. Alors, allez-y. Je crois qu'il y a une exposition en cours,
oui,
jusqu'à février, il me semble.
Oui, tout à fait. On accueille en ce moment l'artiste Julien Priez, qui est un typographe et calligraphe.
Alors, c'est quoi, calligraphe, typographe ?
Alors, bon, la calligraphie, on remonte aux origines de l'écriture. Hein. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, mais la calligraphie, c'est le fait d'écrire des lettres à la main avec des outils spécifiques. Des moines copistes, par exemple, en Occident, recopier des textes et fabriquer des livres à la main. Ça vient vraiment de...
Donc là, calligraphie, on voit à peu près ce que c'est. La typographie, c'est alors, les polices, les
oui.
différents caractères.
Ouais, c'est ça. En fait, le typographe crée des caractères de police qui après sont utilisés pour de la communication graphique. Donc Julien a des commandes pour de la publicité, pour des affiches, du culturel, enfin des commandes en tout genre. Donc en fait, il passe du travail de la main à l'ordinateur. Il a ses deux compétences, à savoir le dessin de la lettre manuelle et la programmation informatique. Donc du coup, dans son exposition, on va retrouver vraiment ces deux passerelles avec la présentation d'une animation liée à une recherche typographique qu'il a développée.
Et c'est jusqu'à quand l'exposition ?
L'expo est visible jusqu'au 23 février.
Dans votre galerie à Argenteuil.
Oui.
Et là aussi, c'était un artiste que vous suiviez depuis quelque temps, ou c'est
oui.
une rencontre, une opportunité ?
Oui, on le suit, on suit son travail, on est fan. Il est vraiment talentueux. On a plaisir à révéler son travail.
Alors justement, avant de passer à vos autres actualités, lorsque vous montez une exposition pour donner des billes un petit peu à nos auditeurs qui voudraient monter une exposition, alors pas forcément avec toute l'ambition qui est propre à l'imagerie, mais quelques warnings, quelles sont les étapes principales pour monter une exposition d'art ?
Il faut un certain sens de l'organisation, donc c'est comme tout, hein, c'est en faisant qu'on apprend. Techniquement, pour concevoir une exposition, on a un plan de la galerie, on commence déjà avec l'artiste à proposer des dispositions d'œuvres. Donc ça, on
donc lui, il participe à comment il a envie que son œuvre soit exposée.
En fait, ça dépend des artistes. Parfois, certains livrent leurs œuvres et donc c'est aux galeristes de tout gérer. En général, c'est les artistes plus professionnels qui font comme ça, qui se déchargent complètement de non seulement de la scénographie, mais aussi de l'accrochage. Et d'autres, par contre, sont vraiment exigeants sur tous les points et veulent maîtriser tous les aspects de leur exposition. Donc en fait, une scénographie, c'est un peu comme une maquette de livre. Hein. L'espace est quadrillé comme une page et il faut la rendre élégante, compréhensible. Et voilà, donc c'est tout est question de goût et de savoir-faire.
On n'en doute pas. Et alors, y a cette exposition en actualité, là, donc jusqu'au mois de février. Je crois que vous avez d'autres actualités.
Alors, oui, effectivement, c'est une nouvelle très fraîche. On va mettre en place une action autour de Georges Braque. Donc, Georges Braque, pour la petite histoire, il est né à Argenteuil. Il a passé ses 9 premières années dans le centre-ville.
D'où le lycée qui porte son nom.
Oui, oui. Il y a pas beaucoup de souvenirs de lui, mais effectivement, il y a un lycée qui porte son nom. Il y a aussi la place Georges Braque, près de l'esplanade Allende. Et donc, avec la maison de quartier du centre-ville qui finance l'action, on va pouvoir se rendre à l'exposition cubiste au centre Pompidou. Donc, on est vraiment ravis.
Et votre rôle dans cette sortie ?
Bah, notre rôle, c'est d'organiser un atelier à l'imagerie. On va aller à la rencontre de Georges Braque, rappeler qui est ce personnage, en quoi il a bouleversé l'histoire de l'art en collant le premier papier sur une peinture, ses collaborations avec Picasso.
Donc de préparer la sortie, préparer le public à être réceptif, voilà. À 100%. À ce qu'il va voir ensuite lors de la sortie, que vous allez peut-être commenter aussi, ou vous allez la commenter.
Alors,
cette sortie
là-bas, on va bénéficier d'un conférencier du centre Pompidou, mais effectivement, c'est toujours pareil, on ne peut pas plaquer un public qui n'est pas sensibilisé dans un milieu qu'il n'appréciera pas parce qu'il n'a pas les clés de compréhension. Donc toujours à nous de faire des efforts pour leur expliquer tout ça.
Et une troisième actualité, toujours en partenariat avec la ville, autour du patrimoine culturel de la ville. Non, c'est pas un partenariat avec la ville.
Non, Audrey, je...
Non, vous m'aviez parlé d'une action de valorisation du patrimoine. Non, pas du tout.
Non, en fait, c'est pas une action, mais c'est en fait, c'est à travers nos expositions, on fait toujours référence au patrimoine culturel de la ville.
Ah d'accord, là, ça y est, je vois la passerelle.
Ouais, donc qui est très très riche. En fait, les Argenteuillais ont eux-mêmes oublié que c'est la ville, c'est le berceau des impressionnistes. L'association des peintres impressionnistes a été créée en 1873 à Argenteuil. C'est ici qu'a tout commencé. C'est pas à Giverny, c'est pas à Auvers-sur-Oise, c'est pas à Deauville, c'est à Argenteuil. Et nous, on profite aussi de nos actions pour rappeler ça quotidiennement.
Valérie, j'ai été ravie de partager cette heure avec vous. On arrive à la fin de cette émission, mais avant de se quitter, comment peut-on vous contacter ?
Alors, on peut nous contacter en venant sur place à l'imagerie, au 10 rue du 8 mai 1945. On peut nous contacter via les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. On a également un site internet, l'imagerie.fr. Voilà, on est facilement contactable.
Merci beaucoup Valérie de nous avoir présenté votre association avec passion et enthousiasme. Je vous souhaite encore beaucoup de réussite à vous et à l'imagerie. Je remercie également Francky qui assure la technique de l'émission aujourd'hui. Je vous rappelle que si vous souhaitez participer à la parole aux associations, il vous suffit nous contacter à l'adresse suivante contact@csa95.com. C'était Audrey Lamoli sur IDFM Radio Anguin. Je vous donne rendez-vous vendredi 1er février à 14h. On mettra nos maillots de bain. Je recevrai l'association Jeanne d'Arc, d'Aubonne. Natation, bon week-end à tous.
Merci Audrey.
Optique Bardin fête ses 30 ans avec vous. Dans notre magasin au cœur d'Anguin, face au manège, tout est organisé pour satisfaire nos clients. Nous savons être à votre écoute et mettons à votre disposition notre savoir technique et aussi nos conseils esthétiques. Notre priorité, vous présenter une large gamme de qualité avec des montures de fabrication française. Vous découvrirez une sélection de produits high-tech colorés, classiques ou originaux qui répondront à toutes vos attentes. Laissez-vous guider par notre expérience dans un cadre sympathique. Optique Bardin s'occupe de vous, suivi du dossier mutuel sans oublier l'essentiel, vos yeux. Poussez la porte du magasin Optique Bardin, comme le font nos clients depuis 30 ans. Vous trouverez forcément des lunettes de vue ou solaires pour vous. Un cadeau vous y attend, Momystère à donner, monocle. Optique Bardin, 41 rue du Général de Gaulle, face au manège, à Anguien-les-Bains, ouvert du mardi au samedi.
Samedi 26 et dimanche 27 janvier,
Espace Rive Gauche,
5e édition du festival Musique en scène,
organisé par la ville de Mériel.
Samedi 26 janvier, 20h30, récital du pianiste Simon Gréchy avec
Schumann, Beethoven, Chimanovski, Alcan, Gottschalk et Balakirev.
Dimanche 27 janvier, 16h, l'ensemble de cordes Les Virtuoses,
dirigé par le violoniste Vadim Tchijik,
interprétera
Albinoni, Mozart, Brahms, Kreisler, Shostakovich et Strauss.
Un programme de grande qualité, accessible à tous.
Direction artistique, association du festival d'Auvers-sur-Oise.
Renseignements et réservations 01 34 40 57 30.
01 34 40 57 30.
L'accordéon très présent sur IDFM Radio Anguin. Retrouvez du lundi au vendredi entre 11h et 12h. IDFM, accordéon, magazine, danse, convivialité, jeunesse, reportage. Toutes les facettes de l'accordéon présentes sur IDFM Radio Anguin.
Jacques Bessé et Sandra vous accueillent tous les dimanches matins de 9h30 à 12h pour accordéon autour du lac. Vos dédicaces sont les bienvenues au 03 44 27 86 86. Accordéon autour du lac sur IDFM 98 Radio Anguin Île-de-France et retrouvez-nous sur internet idfm98.fr.
Big Bang, c'est un thème et des chroniqueurs sorties, ciné, beauté, high-tech et news. Retrouvez-nous tous les samedis à 20h.
À quoi peut ressembler le visage d'une momie après 3000 ans? Pour se faire une idée, je vous invite à taper Bernadette Chirac sur Google Images. J'espère que la momie m'en voudra pas pour la comparaison.
Big Bang, c'est tous les samedis depuis 1997 sur les 98 FM ou sur l'appli ou le site Big Bang. Station.
Musique, bon plan, invité et surprise. La seule émission pour les enfants, c'est ici et nulle part ailleurs.
Salut, c'est Oui Oui. J'écoute Casse-Noisette avec Christophe.
Jerry nous a trouvé une super, super mission pour nous, les Spies. Clover, Alex et moi, on est sur Casse-Noisette.
Le samedi de 7h à 9h, Casse-Noisette, c'est l'émission de la famille sur Radio Anguin, la radio du bien-être.
Avec Christophe.
Vous aimez la chanson française? Retrouvez-nous du lundi au jeudi entre 14h et 15h sur IDFM Radio Anguin. Pour vous, vos coups de cœur et découvertes musicales. Vos plus belles chansons françaises du lundi au jeudi entre 14h et 15h sur IDFM Radio Anguin.